La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. En plus de 20 œuvres à partir de la fin 1912, à l'huile, au pastel, au crayon, à l'encre, Robert Delaunay reviendra sur le thème de ce grand tableau, l'équipe de Cardiff. Nous pourrions penser, en entendant ce titre, qu'il s'agit simplement de la représentation d'un match de football-rugby, comme on disait alors pour le rugby. En fait, c'est beaucoup plus que cela, plutôt dans l'esprit modernolâtre des amis et poètes Apollinaire et Sandrart. Il s'agit dans un même tableau d'associer sport, publicité, technologie et loisirs, en fait de s'associer à tous les signes d'un monde nouveau. Un choc de langage et de couleurs, une agression faite aux grands sujets du moment, jardin, cavalier, gare, train, avion peut-être, mais pas encore la présence simultanée des sensations que fournit une époque. Un livre vient de paraître qui, en explorant ce tableau que nous croyions bien connaître, nous révèle les enjeux de cette période d'invention inouïe, de débats esthétiques fondamentaux entre le cubisme arrivé à maturité, l'abstraction naissante, le futurisme en plein essor et la transformation d'une société par les images qui l'envahissent peu à peu. L'édifice compassé de l'art comme refuge de la haute culture s'en trouve ébranlé. Et Pascal Rousseau, l'auteur du livre que nous allons découvrir ensemble, décrit dans son enquête les correspondances entre cette période d'avant-guerre et les inventions du pop art qui, 60 ans plus tard, trouvera dans l'expansion de la prospérité américaine des années 60 des sujets voisins. Je croyais lire un livre intéressant sur un tableau, j'ai lu un ouvrage passionnant sur une époque explorée sous toutes ses facettes. Non seulement un grand livre, mais aussi une démonstration pour une histoire de l'art étendue au mouvement d'une société. Et pour en parler, vous serez surpris, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Pascal Rousseau, professeur à Paris 4, directeur de l'école doctorale de la Sorbonne, responsable d'expositions fameuses comme « Aux origines de l'abstraction » au musée d'Orsay, « Cosa Mentale » sur l'art et la télépathie au centre Pompidou-Metz, et qui prépare d'ailleurs une exposition intéressante à Nantes, me semble-t-il, Pascal Rousseau.
Dans un an, exactement, dans un an. Une expo qui va être le second volet, en fait, de Cosa Mentale, qui essayait d'explorer un thème assez curieux. Il s'agissait de revenir sur une histoire télépathique ou du futur télépathique de l'art. Ce qui est une manière aussi de réinterroger une histoire de la dématérialisation de l'art. Et là, restant dans cet univers, justement, de la psyché, mais de la psyché vue par des chemins de traverse, l'idée sera de proposer toute une histoire des relations entre l'hypnose et l'art, depuis Mesmer, la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y a effectivement des pistes à explorer autour de ces questions.
Vous voulez dire que l'hypnose, la télépathie ont contribué à la naissance de la modernité ?
En tout cas, on fournit, c'est là, ça sera l'hypothèse que je proposerai à Nantes, on fournit un modèle, et un modèle on peut le dire psychologique ou clinique, à une réflexion sur l'efficace de l'art, sur la question de la fascination, et la question aussi même d'ailleurs de l'invention, de la créativité, puisqu'en définitive on s'aperçoit assez vite que sous le somnambule ou l'hypnotisé, il y a quelqu'un qui découvre en fait d'autres personnalités, le dédoublement de la personnalité, mais aussi en fait des étagements en fait de conscience qui sont extrêmement propices à la créativité. Les surréalistes vont se vautrer dans l'hypnose. Le surréalisme est né dans l'hypnose et je souhaitais en fait, en dehors même de, j'ai envie de dire, de cet épisode qui est plus connu, celui effectivement des années 20, l'écriture automatique et autres, mais de refaire une longue histoire de cette affaire, qui était une manière pour moi de revenir sur en fait une histoire des liens entre la fascination et l'art, depuis ce qu'on appelle la période moderne, c'est-à-dire la fin du 18e et aujourd'hui.
Alors cette fois-ci, nous parlons d'un autre aspect, mais qui n'est sur lequel vous aviez déjà travaillé, puisque vous étiez le commissaire de l'exposition Delaunay au centre Georges Pompidou, il y a pas mal de temps déjà.
C'était en 99, oui,
l'autre siècle. Il y a 20 ans. Et vous aviez travaillé déjà assez profondément sur Robert Delaunay, et en particulier sur cet aspect très curieux du rapport de Delaunay à l'ensemble des connaissances de son époque, et en tout cas de la sensibilité de son époque. Et là, vous avez décidé de l'approfondir autour d'un tableau, l'équipe de Cardiff, qui est un tableau dont il existe beaucoup de versions, près de 22 versions entre les dessins, etc. Et qui est un tableau très étrange. Alors, pour introduire le sujet, je propose, je sais que ça fait un effet bizarre à la radio quand on s'écoute soi-même, je vous propose de vous faire écouter une partie du début de votre texte.
On connaît plusieurs versions de l'équipe de Cardiff. Une vingtaine. Dont trois grands formats, de nombreuses esquisses préparatoires ainsi que des reprises plus tardives dans les années 1920, au crayon, à l'encre, à l'aquarelle ou à l'huile. Dans l'ensemble de ces versions, domine au centre de la composition un groupe de joueurs de rugby, entouré de panneaux publicitaires. La scène du groupe central est empruntée à une photographie parue le 18 janvier 1913, dans La vie au grand air. À cette date, Delaunay a déjà opté pour un motif footballistique, puisqu'il mentionne dans une lettre à son ami Franz Marc, datée du 11 janvier 1913, qu'il travaille en ce moment toujours à l'équipe de Cardiff, qui lui donne beaucoup de joie. Le cliché reproduit une scène de touche lors d'un match de football rugby, une discipline venue d'outre-Manche, mais qui suscite déjà une passion collective dans les stades français. Le peintre a crayonné sur cette coupure de presse le profil de la grande roue et un panneau publicitaire similaire à ceux que l'on rencontre sur le pourtour des pelouses. Sa composition commence très vite à prendre forme. En quelques jours, il tente de réaliser une première version à l'huile. On y retrouve les joueurs de rugby en plein élan, la grande roue, la tour Eiffel et le biplan, ainsi que le panneau publicitaire Astra. Le panneau Delaunay n'apparaît pas encore. À sa place, un large bandeau rouge scande la marque Magic Paris. En référence, nous y reviendrons, à un fameux parc d'attractions installé en plein cœur de la capitale. Quelques semaines plus tard, il met un dernier coup de pinceau à la version finale dite l'équipe de Cardiff, troisième représentation, qu'il expose aux indépendants de 1913. Par son format, 326 par 208 cm, elle fait non seulement office de grande œuvre destinée au salon, mais s'impose comme un authentique tableau réclame. Au panneau magique, l'artiste a substitué un immense bandeau vert, scandant son nom en lettres majuscules, telle une signature surdimensionnée assurant son autopromotion.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes avec Pascal Rousseau, l'auteur d'un livre qui vient de sortir sur Robert Delaunay, L'Invention du Pop, et qui est un livre très extraordinaire, et qui nous permet d'imaginer ce grand créateur de l'avant-garde du début du XXe siècle, dans un rôle un petit peu différent que ce que l'on pensait. Parce que, au fond, Pascal Rousseau, je pensais que Robert Delaunay, c'était surtout les disques colorés, c'était surtout un inventeur ou un co-inventeur de l'abstraction. Et vous le faites apparaître sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle de quelqu'un fasciné par son époque, comme l'est Apollinaire au même moment, par la publicité, par les signes les plus commerciaux, les plus triviaux de son époque. Est-ce que c'est quelqu'un qui participe à la dégradation de son art, finalement?
Il est obsédé par l'inverse. Il est obsédé, au contraire, par l'anoblissement du tableau. Mais un tableau qui résisterait précisément à la culture de masse. Il est extrêmement sensible à toutes ces images circulantes, et en particulier justement dans les supports qu'il utilise lui-même. Sonia Delaunay, sa femme, donc raconte comment il était toujours dans son atelier avec des cartes postales en main, en fait, et en poche.
C'était un collectionneur de cartes postales. Il y a déjà une illustration qui montre dans votre livre que c'était une manie de l'époque. Les cartes postales étaient collectionnées, les gens en avaient plein les poches. Il y a une drôle de
d'illustration. Oui, cartophilie ou cartomania. C'était un support qui a été extrêmement important et qui, moi, m'intéresse parce que, justement, il incarne, en fait, cette substitution de l'écrit. McLuhan parlera du vieux moment Gutenberg, la société Gutenberg, qui est en train de se déplacer vers, McLuhan plus tard dans les années 60 dira pâté Marconi. Mais donc Robert Delaunay a déjà cette intuition dès 1913 que l'on est en train effectivement de vivre un moment culturel qui signe la fin de la linéarité de l'écrit et qui va se propulser vers un autre mode habité par les images, des images qui sont sur plusieurs niveaux, des images plates, celles des magazines et autres, mais qui rentrent dans la vie et en particulier dans l'univers visuel d'un urbain comme Delaunay à Paris. Ce qui m'intéressait, bien évidemment, c'est-à-dire qu'après avoir effectivement soutenu pendant de nombreuses années que Robert Delaunay est défendu d'ailleurs, que Robert Delaunay était un pionnier important de l'abstraction, ce qui m'importait dans cet ouvrage, c'était de montrer qu'il était au même moment, et sans contradiction, c'est ce qui est surtout très important, un grand défenseur aussi de son envers, qui serait plutôt justement la réaction pop, en fait, le retour de l'image en force, et de l'image quotidienne, de l'image circulante, de l'image sociale, de l'imagerie même, de l'imagerie sociale, dans le champ du tableau.
Alors dans le champ du tableau, il y a une lutte qui a lieu justement entre image et tableau. Vous en parlez au début du livre, comme s'il y avait une tension entre ces deux mots.
Alors je me réfère à un auteur qui, à cette époque, donc Gabriel Mouret, critique influent, livre un article qui est vraiment contemporain de la présentation de ce tableau donc au Salon des Indépendants 1913 à Paris, au Grand Palais, et qui s'intitule donc « Le règne de l'image », dans lequel il distingue, et il oppose même d'ailleurs, ce qu'il appelle l'image, qu'il appelle brutale, primaire, au tableau qui, lui, fonctionnerait sur un montage beaucoup plus subtil, faisant appel effectivement à une connaissance. Et ce qui m'intéressait précisément, c'est le rapport historique entre cet article qui apparaît au moment où le tableau apparaît au grand public et la façon dont, manifestement, Robert Delaunay... sinon c'est inspiré en tout cas de ce texte, il a réfléchi à cette question pour précisément essayer de monter le tableau, puisque c'est ce qu'il veut faire en fait. Il veut faire un vrai tableau, une grande composition, mais nourri de ce niveau justement de l'imagerie. C'est un terme qui a sa connotation négative, l'imagerie plate et autres, contre le grand tableau justement qui a sa profondeur. Il veut associer les deux.
Il y a une chose qui me frappe dans la façon dont vous en parlez, c'est votre insistance sur le mot montage. Et donc vous donnez l'impression que si le tableau était autrefois quelque chose de composé, il est là monté, comme au cinéma.
Comme au cinéma. Alors le rapport à Delaunay, le rapport de Delaunay au cinéma est ambigu.
Parce qu'il n'y va pas.
Il y va assez peu, même si ses camarades de classe, Apollinaire, Sandrard et autres, sont des férus de cinéma des attractions, lui n'y va pas et surtout il considère que le cinéma est une mécanique qui n'est pas vivante. Et en particulier, il lui reproche bien sûr de ne pas être en couleur. Ce qui, je pense, est une erreur, puisque je crois que la question de la couleur au cinéma n'est apparu que on s'est posé la question que lorsque effectivement les pellicules ont été coloriées et que l'on a commencé à projeter sur les écrans des images en couleur. Mais je pense que les premiers spectateurs du cinéma ne se sont jamais posé la question de est-ce que c'est bien une image noir et blanc. Je crois qu'il voyait déjà la couleur. Alors Robert Delaunay, lui, la voit pas et ça le chagrine. Il ne s'intéresse pas à ce vocabulaire. Il pense au contraire que le tableau est en mesure précisément d'assumer beaucoup plus ce qu'il appelle l'animation. La question de l'animation l'intéresse, l'obscène même d'ailleurs. Et la peinture, en fait, pour lui, serait beaucoup plus adaptée, en fait. Il n'ira pas vers les nouveaux médias, on peut les appeler comme ça. En revanche, il les regardera attentivement, et en particulier la photographie, bien sûr.
Donc on sait que cette équipe de Cardiff, c'est le résultat probablement d'une photographie travaillée que vous avez retrouvée et présentée dans le livre. C'est le résultat aussi d'une fréquentation des stades, apparemment il y allait, et d'une évolution du paysage de ces stades qui reçoivent à ce moment-là la publicité. Est-ce que le tableau que l'on a, qui est une touche avec un joueur en train de se saisir du ballon ovale et qui est soutenu par ses partenaires, avec derrière une grande roue, en l'air un biplan. Est-ce que ce tableau est un symbole? Est-ce qu'il symbolise quelque chose d'autre qu'une virtuosité? Est-ce qu'il a un contenu signifiant autre?
Ben, c'est précisément une construction symbolique. Une construction symbolique qui en fait associe à l'ensemble des emblèmes de la modernité, l'architecture métallique, la grande roue, les expositions universelles, la dimension festive au cœur de Paris, d'une ville qui est elle-même en définitive en transformation sur le modèle du parc d'attractions, comme Rem Koolhaas, l'architecte, le dira ensuite de Coney Island à propos de Manhattan. Je pense que l'hypothèse de l'architecte Rem Koolhaas, qui est magnifique, c'était de considérer que le Coney Island, le fameux parc d'attractions, le Luna Park, a été la matrice qui a en fait construit la structure urbaine de Manhattan. Et je pense que Delaunay en fait avait compris la même chose. Il avait compris bien avant. Il l'avait compris donc quasi 50-60 ans avant Rem Koolhaas, bien sûr, sur le cas parisien. Et il est allé chercher dans donc le parc d'attractions qui se trouvait à cette époque-là au cœur de Paris. Il s'appelle Magic City. On l'a complètement oublié aujourd'hui. Mais j'ai essayé de réexhumer justement un petit peu de l'iconographie, qu'est-ce qui s'y passait, quelles étaient les attractions. Et en fait, il est intimement convaincu que le parc d'attractions sera le modèle de la nouvelle ville contemporaine qui est entièrement tournée vers la question de la fête des sens, en fait. Il est en cela très, très futuriste. Hein. Il pense que le musical, la scène du musical, est le modèle du développement de la sensualité urbaine à venir.
Alors quand on regarde votre tableau, et vous en parliez tout à l'heure, donc il y a la Tour Eiffel que l'on voit en silhouette, qui était déjà présente dans le travail de Delaunay un an auparavant.
C'est ça, c'est-à-dire que c'était déjà l'emblème qu'il avait choisi, et d'ailleurs là, il l'installe avec un panneau publicitaire, le nom Delaunay au pied de la Tour Eiffel, comme si déjà il marquait déjà son imprimatur. Il est le peintre, il est reconnu d'ailleurs comme tel, comme le peintre qui a démonté la Tour Eiffel. Il l'a fait en cubiste, là il est dans un autre style, mais on le voit bien, là il est déjà sur l'idée d'associer comme un nom de marque, ça c'est clair, il est fasciné par l'idée du trademark, son nom va devenir un label.
C'est incroyable, en 1913, l'artiste marque son nom en grand, en plein milieu du tableau, sous la Tour Eiffel, comme si c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, une publicité. Écoutons peut-être ce que dit Sandra à ce moment-là de la publicité, pour que l'on comprenne dans la relation exactement simultanée, c'est un mot qu'on va utiliser souvent, entre Sandra, Apollinaire et Delaunay, cette fascination évidemment pour la réclame.
La publicité est la fleur de la vie contemporaine. Elle est une affirmation d'optimisme et de gaieté et distrait l'œil et l'esprit. Ce qui caractérise l'ensemble de la publicité mondiale est son lyrisme. Et ici, la publicité touche à la poésie. Le lyrisme est une façon d'être et de sentir. Le langage est le reflet de la conscience humaine. La poésie fait connaître, tout comme la publicité un produit, l'image de l'esprit qui la conçoit. Un art qui fait appel à l'internationalisme, au polyglottisme, à la psychologie des foules et qui bouleverse toutes les techniques statiques ou dynamiques connues, en font une utilisation intensive, sans cesse renouvelée et efficace, de matières nouvelles et de procédés inédits.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Nous venons d'entendre Blaise Sandrard parler de la publicité et nous le citions à propos du tableau de Robert Delaunay, l'équipe de Cardiff, dont Pascal Rousseau s'est emparé pour faire un livre exceptionnel qui vient de paraître chez Azan. Et donc, au fond, simultanément, Pascal, il y a Léger, Sandrard, Apollinaire qui parlent de la publicité et d'autres probablement. Pour en dire ce que dit Sandrard de façon audacieuse, un art qui fait appel à l'internationalisme. C'est un art international.
Alors la question de l'internationalisme est très importante dans cette affaire. Donc Sandrar, le poète, revient des États-Unis. Le poème Zone, qu'on aura l'occasion probablement d'écouter, de Guillaume Apollinaire, est né aussi de cette rencontre. Et il revient des États-Unis, du Nouveau Monde, bien évidemment, avec cette idée aussi. Effectivement, des idées d'images qui circulent, de textes, de langues, et qu'il faut en fait défendre. Et ce tableau, et j'essaie de le montrer en particulier en faisant toute une exégèse du choix qu'il a fait pour une équipe de rugby, un match de rugby qui n'est pas anodin, puisque donc au même salon, Albert Gleizes, qui est un de ses compagnons de route du cubisme, fait la même chose sur un grand format aussi, ce qui est quand même assez intriguant.
Mais dans des tons très très différents, c'est-à-dire beaucoup moins heurté, beaucoup plus parisien, si j'ose dire, pour parler de l'époque.
Ah bah c'est le match de rugby, mais sans le Parc des Princes, c'est-à-dire sans les panneaux réclames, sans j'ai envie de dire c'est le match de rugby qui se trouve j'ai envie de dire un peu nulle part et part en tout cas au cœur de la ville, ce qu'a choisi bien évidemment beaucoup plus explicitement Robert Delaunay. Et ce que j'essaie de montrer, après avoir fait une petite enquête, c'est que si lui, et peut-être Gleizes aussi par la même occasion, ont choisi bizarrement un thème qui, il faut le dire, n'est pas du tout présent dans la culture visuelle de la peinture de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il y a un précédent qui est celui du douanier Rousseau, qu'aime beaucoup évidemment Delaunay. Et que...
Il y a eu une exposition quelques années auparavant du douanier Rousseau qui a permis de voir ces fameux joueurs de football rugby.
Il avait montré, le douanier Rousseau avait montré les joueurs de rugby au Salon des Indépendants de 1908, c'est-à-dire 5 ans auparavant.
Et ils se connaissaient
Ah non seulement ils se connaissaient, mais Delaunay a été le grand ami et le grand, enfin je veux dire, à la sépulture du douanier Rousseau, du bon douanier Rousseau, Delaunay a été un des seuls à suivre le cercueil. Delaunay a écrit même un texte assez long. Il a été publié pour partie dans une revue dans les années 20, mais il reste toujours inédit. Il a écrit en fait un ouvrage sur le douanier Rousseau, dont il a en fait fait l'éloge auprès de tous ses amis de la cohorte allemande, Kandinsky, Franz Marc, le Blauerreiter, qui sont devenus eux-mêmes des fans du douanier Rousseau. Donc c'est par Delaunay qui a inventé le douanier Rousseau, puisque le douanier Rousseau est un phénomène quand même, hein, il était effectivement présent au Salon des Indépendants, il était intimement convaincu que lui était le grand moderne d'ailleurs. Il disait de Picasso qu'il était le primitif quand lui était le moderne. Et Delaunay était absolument fasciné par le personnage, par son rapport même d'ailleurs justement au métier, au petit métier de la peinture. Ce qui est très intéressant puisque effectivement ce tableau et surtout la persistance du tableau chez Delaunay est lié à cette culture du métier, de l'artisanat en définitive de la peinture, c'est clair.
Parce que il y a donc à ce moment-là un goût pour ce sport nouveau qui apparaît dans la relation anglo-française, si je puis dire, donc qui est le football, le rugby. Et puis il y a des magazines qui s'en font le porteur ou les porteurs, puisqu'au fond, d'une certaine façon, le douanier Rousseau, lui, lit l'illustration, on le sait, s'inspire des magazines. Est-ce que Delaunay s'inspire aussi des magazines ?
Alors, ce ne sont pas les mêmes, même s'ils sont allés regarder du côté des images. Le douanier Rousseau regarde les chromos, regarde effectivement la vie illustrée, mais ce sont des anciennes gravures. Je veux dire, c'est l'ancien magazine, peut-être, et pas encore le journal illustré. Enfin, c'est un journal illustré et pas encore un magazine. Delaunay, j'essaie de le montrer dans le livre, a puisé en fait son motif, hein, c'est-à-dire la fameuse scène centrale de la scène de rugby, dans une revue qui est pas du tout anodine. Hein, c'est La Vie au Grand Air, qui est le grand justement magazine illustré de l'époque, quasiment. 40% de la revue, du magazine, est photographique. Le texte est quasiment une sorte de d'hypertexte qui raconte un peu l'image, mais c'est
un... photographique avec une belle maquette quand même, hein.
Avec une très très belle maquette et une maquette qui réfléchit à la question de, justement, de la capture attentionnelle, hein, du spectateur, qui revit d'ailleurs les scènes de match. Des montages, là on retrouve l'idée du montage, et ce qui m'intéressait c'était de voir en quoi est-ce que Robert Delaunay avait pu, en regardant très attentivement et de manière très intelligente ses mises en page, il y a un nouveau rédacteur en chef qui était arrivé il y a quelques années auparavant et qui a vraiment révolutionné la mise en page, les doubles pages, les circulations. Par exemple, un exemple qui est tout à fait fascinant, c'est une mise en page d'une partie de rugby précisément, où on joue sur non seulement des vignettes en forme ovale qui reprennent la forme du ballon et qui circulent de part en part justement de la page de gauche vers la droite, et donc qui racontent l'idée même de l'avancée en fait de l'équipe sur une page.
C'est des expériences qu'on retrouvera dans l'avant-garde russe par exemple, assez proche, qui aussi s'intéresse beaucoup au sport.
Bien sûr. Le sportif devient un vrai modèle, hein, un vrai modèle pour les artistes. Là, on est face à une génération qui est celle du passage du siècle. C'est le nouveau siècle. Et le nouveau siècle doit précisément, en définitive, être l'antidote de l'ancien. Et cet ancien, c'était quoi pour eux? C'était le caractère fumeux, très cérébral, panpsychique, intellectuel du symbolisme, avec toutes ces références ésotériques et autres qu'il faut absolument balayer au profit d'une figure en fait de l'artiste qui est le contraire, c'est-à-dire en fait entièrement versé dans l'énergétique, le vitalisme. Bergson est déjà là.
Et Nietzsche peut-être. Écoutons une citation que vous avez faite de Joseph Jelinas.
À chaque torse rouge noir, un torse rouge s'accroche, voltigeur exalté. Le ressort de leurs jambes, la masse de leur tête inflige aux bolides blonds des trajectoires de flèches. Ils se taisent. Le mouvement les intoxique. Ils se détachent du sol, ils retombent. Leur ardeur se multiplie, environnée de regards, de rayons de soleil, de poudroiements moléculaires, d'effluves de joie. Les modulations de l'attente font vibrer la foule qui devient pathétique. L'action devance la pensée qui vogue en une sorte d'hypnose dont ils ne garderont qu'un souvenir confus et magnifique.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et vous venez d'entendre un texte de Joseph Jelinas de 1913, c'est-à-dire l'année de l'équipe de Cardiff, exactement. Et je me demandais, Pascal Rousseau, au cœur de ce tableau, il y a le nom de Delaunay, mais il y a un personnage qui traverse le nom de Delaunay, qui forme une sorte de dé en récupérant le ballon avec ses bras. Est-ce que ça serait lui, par hasard?
Oui, sans hésitation, c'est lui. Il est juste à la hauteur de son nom et ça tombe bien. C'est celui qui est évidemment, il récupère la balle au vol.
C'est de l'humour, c'est une façon de dire qu'il est en compétition avec les autres et que c'est lui qui va attraper le ballon.
C'est une forme, c'est une forme qui assimile complètement en définitive la lutte qu'est le match en fait, bien sûr, qu'il incarne dans le choix de cette représentation d'une scène de rugby et ce qui se passe dans le salon où est présenté le tableau, donc c'est vraiment une sorte de mise en abîme en fait. Ce salon, c'est le salon de la modernité où se chamaillent en quelque sorte tous les nouveaux peintres, le cubisme, qui n'en est plus un d'ailleurs, et Delaunay vient l'année précédente d'annoncer publiquement qu'il n'est plus cubiste, il est déjà autre chose. Guillaume Apollinaire veut l'appeler orphiste, lui refuse les labels.
Parce qu'il ne veut pas rentrer dans un groupe, il veut rester autonome.
Le label, il portera son nom. Voilà, tout simplement. C'est oui. Delaunay simultané. D'ailleurs, Guillaume Apollinaire lui envoyait quelques lettres, très belles lettres, avec justement sur l'enveloppe Robert le simultané ou Delaunay le simultané.
Et beaucoup de travaux de Sonia et de Robert, d'ailleurs, reprennent le nom. Ce sont des gouaches ou des aquarelles où le nom est mis en place, comme des voyelles de Rimbaud, un peu.
Ce n'est pas un hasard si Delaunay lui-même a travaillé sur le poème de Rimbaud, la coloration des voyelles, ça l'intéresse beaucoup. Il est absolument fasciné par l'idée de pouvoir, par la couleur justement, se substituer à l'alphabétisation, au langage conventionnel en fait.
Et pour lui, c'est l'idée de trouver un langage universel, la couleur.
Oui. Et dont l'abstraction d'ailleurs pourrait être un modèle ou l'image. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de montrer dans ce texte. C'est qu'il a deux options, en fait, à ce moment-là. Il veut sortir justement, des langages conventionnels. La lettre pour en être un. Il va la colorer, justement, pour la basculer vers quelque chose d'autre. La couleur sera son mode. Et c'est quelque chose qu'il va porter vers des choses complètement abstraites. Parce que pour lui, la peinture abstraite, par la couleur, parle d'elle-même. Elle imprime une expérience même du monde qui est largement suffisante, qui n'a pas besoin de s'énoncer dans les mots, même si les mots sont très présents dans l'équipe de Cardiff. Les mots, en fait, sont une sorte de béquille, en quelque sorte, pour penser la peinture comme le nouveau langage moderne. Et cela, en cela, Robert Delaunay a rejoint vraiment de nombreux pionniers de l'abstraction, son ami Kandinsky en premier lieu, qui était obsédé par cette question.
Alors, il va y avoir quand même une séparation entre les Allemands et Delaunay, d'une certaine façon, après beaucoup d'enthousiasme. Un léger écart, me semble-t-il, non, en lisant les correspondances?
Alors l'écart est à géométrie variable, c'est-à-dire que il y a un petit écart effectivement avec Franz Marc, ça c'est clair. Franz Marc et en particulier face à l'équipe de Cardiff qui sera présentée donc en Allemagne, a des doutes. Il a des doutes précisément parce qu'il voit ce retour en force de la société moderne que Franz Marc évidemment exècre. Franz Marc lui se réfugie dans la forêt. Hein. Il n'a qu'une seule chose en tête, c'est de se mettre dans la peau des animaux. Il peint les animaux, il peint les renards, il peint la faune. Et son obsession, c'est de se mettre psychologiquement dans le corps et la tête des animaux. Donc il est à mille lieues, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a un abysse là qui est en train de se créer avec Delaunay qui, lui, se vautre surtout pas dans le primitif de la forêt et de sa faune, mais au contraire, hein, dans un orphisme qui, lui, est beaucoup plus urbain, dans la communication et qui pense le tableau comme un phénomène de communication. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'essaie de montrer que non seulement il met en scène des tableaux réclames, tels qu'ils sont à l'époque justement vilipendés, il y a toute une législation à cette époque-là, et j'essaie de retracer tout cela et de montrer combien, s'il met des panneaux réclames dans son tableau, c'est parce qu'il répond à toute une querelle invraisemblable avec une profusion de caricatures autour de ces questions.
C'est le moment où on interdit l'affichage sur les murs de Paris, la loi de 1912, je ne sais pas, à peu près.
Alors il y a eu toute une séquence, ouais. Il y a eu la fameuse loi de 1881 qui reste encore sur les murs, et puis ensuite une première nouvelle législation 1910 qui est un petit peu timide et une fameuse donc en 12 qui interdisait les grands panneaux réclames, non pas dans la ville d'ailleurs mais plutôt dans la campagne. On évoquait le fait que c'était une sorte de contamination marchande du beau paysage et contre lequel il fallait opposer justement le respect de la tradition du beau paysage. Delaunay fait exactement l'inverse et comme Léger, il est absolument fasciné par l'économie visuelle de ce nouveau panneau réclame.
Alors Léger en parle et prend position et d'une façon très très proche de celle de Delaunay, écoutons-le.
Le panneau réclame, imposé par les nécessités commerciales modernes, coupant brutalement un paysage, est une des choses qui ont fait le plus tempêter les gens dits de bon goût. Il a même fait naître cette stupéfiante et ridicule société qui s'intitule pompeusement « la société de protection des paysages ». Connaît-on rien de plus comique que cet aéropage de braves gens chargés de décréter solennellement que telle chose fait bien dans le paysage, et cela non ? Les gens, dit de bon goût, les gens cultivés, n'ont jamais pu digérer le contraste. Il n'y a rien de plus terrible que l'habitude. Et ces mêmes gens, qui proteste avec conviction devant le panneau réclame, vous les trouverez au Salon des Indépendants, se tordant de rire devant les tableaux modernes qu'ils sont incapables d'encaisser, comme le reste. Et pourtant, cette affiche jaune ou rouge, hurlant dans ce timide paysage, est la plus belle des raisons picturales nouvelles qui soit. Elle flanque par terre tout le concept sentimental élimé et au contraire, elle annonce l'avènement du contraste plastique.
France Culture, l'art et la matière. Jean Deloisy.
Je suis avec Pascal Rousseau pour parler de Robert Delaunay, inventeur soi-disant, ou dit-il, du pop art. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous explorons le tableau L'équipe de Cardiff et justement, en écoutant Fernand Léger parler de la publicité, nous retrouvons Delaunay qui lui-même fait un tableau publicitaire pour lui-même avec les moyens optiques en tout cas de la publicité d'alors. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas, Pascal ?
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Robert Delaunay a l'intuition que les théories des couleurs, qui ont été très importantes pour l'émergence de l'impressionnisme, des néo-impressionnistes qui l'ont beaucoup fasciné dans un premier temps, se sont déplacées ailleurs, pas dans les ateliers, ou en tout cas pas dans les ateliers de peintres, plutôt dans les ateliers de publicité, en fait. Et les théories des couleurs, c'est-à-dire l'efficace, hein, justement, de l'association des couleurs, s'est totalement déplacée à cette époque-là, d'une manière beaucoup plus rationnelle, dans, justement, les recherches qui sont faites sur les montages, en définitive, des nouvelles affiches.
Alors, vous prétendez que Delaunay part dans cette aventure et qu'il... Il rend encore plus profane la surface du tableau par rapport aux Allemands, par exemple. Et on est dans une situation qui évoque un petit peu le futurisme, cette sorte de décrépitude qu'annonçait Baudelaire du futurisme, d'une certaine façon.
Oui, alors la relation de Delaunay au futuriste est un petit peu particulière. Il y voit évidemment plutôt de la concurrence. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce tableau parle de cela aussi. Il fait un tableau qui est une réponse, bien sûr, au futuriste, hein, qui venait d'avoir une exposition au printemps 1912 à Paris et qui ont explosé, en quelque sorte, le côté plus rassurant d'un cubisme qui était un petit peu plus stable. Delaunay est fasciné, bien évidemment, par ce mouvement, mais veut évidemment singulariser par rapport à eux. Ils sont très, enfin, les futuristes, c'est une cohorte, hein, c'est une troupe, une tribu d'Italiens portée par Marinetti, qui est une forte personnalité. Il se trouve que Delaunay aussi, c'est deux personnalités qui vont se frotter et plutôt se confronter d'ailleurs. Delaunay est clairement futuriste ici, bien sûr.
Alors, on voit le biplan, c'est celui de Blériot ou pas?
Alors, le biplan est en soi une intrigue qui m'intéressait, puisque ce n'est pas l'appareil le plus moderne en 1913.
Il y avait déjà des monoplans.
Le monoplan, ouais. Blériot a précisément traversé la Manche avec un monoplan. Traverser la Manche et ensuite traverser Paris, puisque son grand...
Mais dans l'hommage à Blériot qui va être fait en 14 par Delaunay, c'est, oui, un biplan que l'on voit aussi, non?
Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a biplan et monoplan. Ce qui est une manière d'ailleurs de raconter l'épopée de l'aéronautique. Là, ici, ce qui est assez intriguant, c'est que, alors même qu'il est censé précisément s'inscrire dans l'actualité, le présent, il est presque dans une forme légère d'anachronisme, puisqu'en fait le biplan est plutôt une forme assez archaïque qui a été dépassée par le monoplan. Ce qui m'intéressait, c'est que le biplan, c'est une forme cubique, et que cette forme cubique, bien évidemment, s'élève pour justement tout mettre à plat.
C'est une forme cubique parce qu'elle n'est faite que par petits cubes, en fait, hein. La structure même des ailes, ce sont des petits cubes.
Voilà, et donc l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt cela. C'est une allusion précisément à la façon dont lui-même va s'éloigner du cubisme pour présenter une autre forme qui est celle du tabloïd, en fait. Quand je dis tabloïd, c'est-à-dire la forme plate du montage des images du magazine illustré.
Alors, en dessous, il y a un panneau jaune en plein cœur du tableau, comme une étiquette qui serait posée sur le tableau. Mais l'étiquette, quand on la voit en vrai, elle fait 1m20 quasiment. Hein, donc, c'est une grande étiquette. Et sur laquelle est marqué Astra. Ce n'est pas de la margarine, c'est quoi ?
C'est Astra, donc Construction Aéronautique. C'est une marque de l'époque, justement, qui accompagne toute cette aventure des pionniers de l'aviation. C'est un constructeur.
C'est eux qui font les grands, comment est-ce que ça s'appelle, les grands zeppelins, qui s'appellent pas zeppelins, justement.
Et des dirigeables.
Des dirigeables. Oui.
Des dirigeables. Hein. Et d'ailleurs, Delaunay est passé par là. J'ai envie de dire qu'il a peint les dirigeables aussi. Et d'ailleurs, son tout premier tableau que je qualifierais de moderne et peut-être de futuriste avant l'heure, qui date de 1909, c'est-à-dire exactement contemporain du manifeste futuriste de Marinetti, est un tableau qui incarne donc et qui représente surtout donc un dirigeable de l'époque, et pas n'importe lequel d'ailleurs. Et j'essaie de montrer combien en définitive ce choix n'est pas du tout anodin, puisqu'il s'agit du dirigeable République.
C'est celui qui s'est cassé la figure.
C'est ça, c'est un crash, et donc un crash d'ailleurs qui raconte aussi l'aspect très héroïque, bien évidemment, de l'aéronautique, puisque ce sont des héros qui souvent...
Les quatre aéronautes se sont tués à cette occasion.
Il y a des funérailles nationales. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont Robert Delaunay, justement, choisit ce petit motif. C'est un petit tableautin, mais précisément avec cet arrière-plan, qui est toute la médiatisation de ce crash national. Donc on le voit très très bien, c'est un Robert Delaunay qui, loin d'être comme ses comparses cubistes, choisissant des motifs qui sont plutôt des motifs très autonomes liés à l'univers domestique du bar ou de l'atelier, choisit précisément d'aller sortir le cubisme à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment dans l'image populaire des journaux, des kiosques, des cartes postales, car il y a eu de nombreuses cartes postales du dirigeable et de tous les événements qui ont tourné autour justement de la sépulture collective. Et ce qui m'intéressait, c'était la dimension proprement médiatique. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas simplement à la forme, c'est l'empennage arrière du dirigeable, il s'intéresse au crash. Et le crash, c'est une manière bien évidemment de s'adresser. Enfin, c'est une apostrophe au public contemporain qui va immédiatement y reconnaître un arrière-plan qui est celui de l'imagerie sociale qui circule dans toutes les couvertures du journal illustré qui se sont fait vraiment les grands relais de toute cette affaire justement du dirigeable, par exemple.
Alors, dans cette aventure, il y a un personnage, parce qu'on parle du futurisme, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a une volonté des futuristes d'être provocants jusqu'à ce que signifie la personnalité commerciale de l'artiste, on en parlera plus tard, mais il y a un autre personnage qui flotte autour de cette ère de Paris, si j'ose dire, de cette grande roue, de cette tour Eiffel, c'est Marcel Duchamp. Quelle est la relation, ou la non-relation, parce qu'il y a Apollinaire entre eux quand même.
Alors il y a Apollinaire entre eux, Apollinaire les avait rejoints d'ailleurs, enfin les avait réunis sous le label Orphiste, hein, puisque donc quelques mois avant la réalisation de ce tableau, il donc fait une fameuse conférence sur le cubisme écartelé dans lequel il associe donc Fernand Léger, Picabia, Marcel Duchamp et Robert Delaunay, ce qui est assez curieux justement puisque ce sont deux options qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer, qu'on a même plutôt l'occasion d'opposer, et ce que je refais un petit peu aussi dans cet ouvrage, j'essaie de voir en quoi est-ce qu'ils ouvrent deux portes en quelque sorte de l'ensemble du XXe siècle et qui sont deux portes d'ailleurs très essentielles à la compréhension du pop en particulier, ce qui m'intéresse. Mais une fois de plus, sur des options toutes différentes. C'est-à-dire que Marcel Duchamp dit « la peinture c'est fini », il est au salon de l'aéronautique, il voit une hélice, il dit « mais elle est plus belle et la peinture c'est fini », dit-il. Les propos sont rapportés par Fernand Léger. Donc on voit bien l'idée d'une obsolescence de la peinture à l'âge de la modernité technique. Les images techniques, la photographie a substitué en quelque sorte le caractère fascinateur de la peinture. La peinture ne peut plus rien faire. Et ce que fera évidemment Duchamp, c'est précisément de l'abandonner au profit de la fameuse révolution du ready-made, l'objet qu'il va directement choisir ou monter comme la roue de bicyclette par exemple, mais sur une fabrication qui n'a rien à voir avec la fabrique du tableau.
Enfin, Duchamp, quand il montre la roue de bicyclette, il se fait photographier à côté, il est dans un fauteuil, tranquillement, avec la sensation de ne pas agir. Delaunay, quand il est près de ses tableaux, il se met au milieu, il se fait photographier devant. Ce n'est pas du tout le même comportement.
C'est deux options. L'une, et je pense que le fait de dire qu'il est dans le tableau, je pense, en dit beaucoup. Ce n'est pas pour rien que le fameux joueur ici le représente, l'incarne. Il est dans le tableau parce qu'il est obsédé par cette question. Et là, c'est la persistance du métier, de la tradition du morceau de bravoure du grand tableau. Il est dans un rapport à la production, j'ai envie de dire performative du tableau, qui est assez importante. On l'a rappelé dès le début. C'est un tableau qui est un grand format, de plus de 3 mètres. Donc, ce n'est pas rien. Contrairement à Duchamp, qui lui, bien évidemment, va jouer, même surjouer, l'idée d'un détachement complet face à la fabrique. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Robert Delaunay, dans l'équipe de Cardiff, illustre la Grande Roue, qui est une architecture métallique, la Tour Eiffel, qui est une architecture métallique, une architecture de fer, F-E-R, oui. Et qui va évidemment se faire F-I-R-E dans la peinture quand Marcel Duchamp, bien évidemment, choisira la roue de bicyclette qui tourne dans le vide ou le porte-bouteille qui est la version miniature de la Tour Eiffel pour défaire précisément la fabrique du tableau et se débarrasser complètement de la production et donc de l'investissement physique de l'artiste au simple profit de la déclaration « ceci est une œuvre d'art ».
C'est assez extraordinaire cette opposition parce qu'elle est en même temps elle est partie de la même source quasiment. Ils étaient ensemble pas seulement autour d'Apollinaire mais c'était pas exactement le groupe de Puteaux non plus, mais enfin c'était quand même
Alors j'étais assez surpris parce qu'en faisant l'enquête, je l'avais pas faite jusqu'à présent, j'étais assez surpris du peu de contact qu'ils ont quand même. Et Duchamp parle très très peu, il dit simplement qu'il l'a vu au Balbulier. Parlant, causant, il présente Delaunay comme un hableur, comme un bonimenteur, et quelqu'un qui théorise la peinture, ce qui est quand même assez intéressant, n'est-ce pas, puisque Le recul a plutôt donné un crédit un peu cérébral à Marcel Duchamp et assez peu à Robert Delaunay, alors que Duchamp dit de Delaunay que c'était le concepteur,
c'est un intello,
quoi. Un théorisateur, dit-il, contrairement à lui qui évidemment n'est pas du tout dans la pensée.
Dans le paysage global, il faut de l'avant-garde et des grands héros de l'avant-garde du début du siècle, Delaunay a une place très très bizarre. Hein. Ça, il n'est pas tout à fait considéré au niveau de Duchamp, de Picasso, de Kupka, et vous le supposez aussi puissant. Alors il y a une mauvaise langue qui est un ami de Delaunay et qui en dit beaucoup de mal. On va l'écouter parce que c'est aussi d'une certaine façon un colosse et un sportif. C'est un boxeur, c'est un artiste, c'est un poète. C'est Arthur Cravanne. Écoutons-le.
Robert Delaunay, je suis tenu à prendre quelques précautions avant de parler de lui. Nous nous sommes battus et je tiens à ce que ni lui ni personne ne pense que ma critique en ait été influencée. Monsieur Delaunay, qui a une gueule de porc enflammé ou de cocher de grande maison, pouvait ambitionner avec une pareille hure de faire une peinture de brut. L'extérieur était prometteur. L'intérieur valait peu de choses. J'exagère probablement en disant que l'apparence phénoménale de Delaunay était quelque chose d'admirable. Au physique, c'est un fromage mou. Il court avec peine, et Robert a quelques difficultés à lancer un caillou à 30 mètres. Vous conviendrez que ce n'est pas fameux. Malgré tout, comme je le disais plus haut, il avait sa gueule pour lui. Cette figure d'une vulgarité tellement provocante qu'elle donne l'impression d'un paix rouge. Je vois donc un manque de tempérament chez Delaunay. Quand on a la chance d'être une brute, il faut savoir le rester. J'oubliais de vous dire que dans la vie, il s'efforce d'imiter la petite existence du douanier Rousseau. J'ignore s'il viendra à cette exposition affublé d'un pardessus rouge, comme au salon d'automne, ce qui n'est pas d'un vivant mais d'un mort. Étant donné qu'aujourd'hui tous les hommes sont noirs, et que la mode est l'expression de la vie.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, nous parlons de Robert Delaunay et nous venons d'entendre un portrait terrifiant d'Arthur Cravanne, un portrait méchant, d'autant plus que ce sont des amis, Robert Delaunay et Arthur Cravanne. Le sont-ils restés après cette apostrophe, Pascal Rousseau ?
Arthur Cravanne est un spécialiste de la peinture au vitriol. Ses portraits étaient absolument, vraiment très très méchants. Et donc c'est pas l'exclusive des Delaunay. Les Delaunay et surtout Sonia, dans un premier temps, ont voulu faire un procès à Arthur Cravanne, mais très très vite se sont avisés. Et donc je crois que en fait l'amitié l'a emporté. Et je pense qu'ils avaient une vraie connivence évidemment. Et en particulier autour de cette figure précisément du sportif, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Arthur Cravanne, qui dirigeait de manière très performative sa revue, donc maintenant il écrivait entièrement, de bout en bout en définitive, était un sportif de la plume, ce qui n'était pas inintéressant puisque, à nouveau, ça en faisait plutôt un théoricien, mais un théoricien qui était quand même très très violent dans la plume. Il faut pas oublier qu'il était le neveu d'Oscar Wilde, ce qui donne quand même une connotation assez curieuse justement, puisque j'évoquais tout à l'heure l'anti-modèle qui était le modèle de l'ancien monde en quelque sorte, le modèle de la fin du 19e siècle, qui est une fin un peu finissante précisément, décadente. Et Dieu sait qu'Oscar Wilde a incarné ce décadentisme symboliste. Arthur Cravanne, qui est son neveu et qui se revendiquait au point même d'ailleurs de considérer que Oscar Wilde était son père putatif. Il jouait beaucoup autour de cette incertitude.
Ça ajoutait à son prestige.
Ça ajoutait à son prestige, mais et justement, ce qui était intéressant, c'est que ça en faisait précisément un personnage très étrange, parce qu'à la fois revendiquant cet héritage, tout en évidemment propulsant en quelque sorte la figure de l'artiste, de l'écrivain vers un tout autre modèle qui était évidemment un modèle beaucoup plus moderne.
Alors, puisque vous parlez de moderne, il y a quelque chose qui approche dans la vie de Delaunay ou dans l'univers de Delaunay, c'est sa relation aussi aux gazettes, si j'ose dire, c'est-à-dire aux événements de l'époque. Je pense en particulier à une façon d'associer abstraction et description événementielle autour du meurtre du patron du Figaro.
C'est un épisode très très curieux, mais qui est absolument tout à fait caractéristique de la manière dont il avance en définitive dans ce rapport entre peinture non figurative ou non objective et peinture précisément plongeant dans l'univers visuel des images populaires.
Parce que là, on parle d'un tableau au milieu duquel il y a un disque, mais ce disque n'est plus exactement un tableau abstrait.
Alors, Delaunay a réalisé donc ce fameux disque, hein, qui est une œuvre en tondeau, une œuvre circulaire, qui est une œuvre, mais qu'on peut considérer comme une œuvre d'une radicalité abstraite très forte, et probablement d'ailleurs, me semble-t-il, pour l'époque, peut-être la plus moderne qui soit.
Puisque... Et qu'il y aura une postérité considérable.
Et à mon avis, pas suffisante. Pas suffisante.
Postérité et même... chez Jasper Johns dans les années 60,
tout
postérité
à fait.
Simultanée chez Wyndham Lewis en même temps que son apparition, non ?
C'est vrai, c'est le premier peintre de la cible, je pense. Il pense tout de suite en termes de cible, de sujet cible. Son spectateur est un sujet cible.
Et mais donc, c'est une rétine.
Oui, c'est à la fois la rétine et la cible en tant que chaland, en définitive. Chaland de celui qui va confronter, qui va être confronté à la vitrine, à la séduction des couleurs, de la vie urbaine. Et donc, en cela, Robert Delaunay est assez intéressant puisque dans ce tableau, donc, qui s'intitule cette fois non plus le disque, mais drame politique, il reprend en fait la forme du disque, donc un tableau, une fois de plus, radicalement abstraite, sauf qu'il greffe sur ce disque en fait deux silhouettes qui sont pas du tout anodines et qui renvoient effectivement à l'actualité la plus brûlante de l'époque, à savoir le meurtre, ou en tout cas la tentative d'assassinat du directeur du Figaro par Madame Caillaud, qui était la femme donc
du
ministre des Finances qui avait instauré l'impôt sur la fortune. Pas l'impôt, non, c'est l'impôt sur le revenu.
L'impôt sur le revenu, pardon.
Et donc, le Figaro avait mené une campagne contre le ministre. Madame règle son compte. Hein, et donc, Delaunay s'est emparé d'une couverture, précisément du Petit Journal, qui était vraiment le grand journal à grand tirage de l'époque. Et donc, greffe ces deux personnages. Ce qui est intéressant, c'est que on parle précisément de cible, puisque la scène dont il s'est inspiré est une scène où Madame tire au pistolet sur sa cible. Et donc, c'est une manière de reprendre l'iconographie populaire des petits journaux illustrés, donc le bas-régime de la, j'ai envie de dire, des images et de l'imagerie justement populaire, pour reconsidérer la modernité et la radicalité de son geste abstrait, puisqu'il nous dit bien qu'il s'agit d'une cible. C'est très étrange.
Mais c'est très étrange. Alors, apparaît à nouveau, c'est aussi un jeu de couleurs extraordinaire qu'on voit apparaître aussi dans cette période-là, autour du Balbulier, autour du manège des cochons. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela?
De
Magic City, cette sorte de goût pour les lumières, les éclats, la façon dont ça nourrit les tableaux à ce moment-là.
Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure en mentionnant donc Magic City, puisque donc dans l'une des premières versions, la toute première version, le panneau de Delaunay en fait n'apparaît pas. Il est en fait remplacé par un panneau dit magique. Magique, c'était un peu intriguant. Et en faisant l'enquête, effectivement, je me suis aperçu qu'il s'agissait de Magic City, qui était donc le Luna Park parisien installé donc sur les quais et dans lequel les Delaunay se retrouvaient avec Cravant précisément pour aller danser le tango, mais aussi expérimenter toutes les attractions de l'époque, qui sont des attractions qui l'intéressent. Pourquoi ? Parce que elles sont liées à la question du vertige, à la question de l'accélération, de l'expérimentation de la vitesse et des changements perceptifs par la vitesse, qu'il prend sous un mode, une fois de plus, très ludique et festif. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, son rapport à la technologie ou à la technique est un rapport qui est entièrement habité, et ça c'est son point commun avec les futuristes, par l'idée du plaisir, d'une énergétique du corps qui est entièrement livrée à l'idée de la satisfaction, en définitive, des sensations et autres. Et en cela, bien évidemment, préfigurant totalement le consumérisme des années 60 qui fera naître le pop.
Alors, écoutons ce que dit un autre témoin de Magic City, quelqu'un qui vit comme Delaunay, comme les autres artistes là, Picabia, sur Magic City.
Un vent dangereux et tentateur de sublime nihilisme nous poursuivait avec une allégresse prodigieuse. Idéal inattendu. Rupture d'équilibre, énervement croissant, émancipation. Partout, hommes et femmes, avec une musique qui me plaît et qui, publiquement ou en secret, déchaîne leur passion.
Dans l'atmosphère de Magic City, les lumières créent une sorte d'effet coloré hallucinant et au fond qui fait de l'environnement un sujet. C'est un petit peu la thèse de votre ouvrage, le rapport entre la peinture pure de Delaunay dont on vient de parler et le pop.
Oui, l'idée c'est de faire que pour lui il n'y a pas schizophrénie, c'est pas deux étages de la fusée, c'est la même fusée, ça, sans aucun doute. Il ne les met pas en contradiction, il les associe. Et je pense que le fait, par exemple, d'avoir réalisé un tableau en 1913 qui est contemporain de l'équipe de Cardiff, le manège de cochon, qui est un tableau très abstrait, ce sont des disques colorés comme la cible. Dans lequel il est assez difficile d'identifier même justement une topographie des gens, des spectateurs et autres. Le sujet plonge dans justement l'abstrait. Mais ce qui est intéressant, c'est que il le fait par le biais d'un milieu qui est celui de la fête populaire, du manège, de la fête foraine, qui lui, en revanche, est effectivement hautement marqué par justement la question du populaire.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une relation entre le pop et Delaunay par la publicité de soi, le consumérisme, la commercialisation des œuvres, le côté avida de l'art?
Alors, c'est un petit peu compliqué dans le cas de Robert Delaunay. Il était manifestement très, très soucieux de la circulation de son œuvre, de la légitimation aussi de son œuvre, ça c'est clair, cherchant des marchands. C'était le cas, par exemple, à cette époque-là, où il a tout de suite l'intuition d'essayer d'aller trouver des marchands américains. Il veut présenter, d'ailleurs, la ville de Paris, qui est un autre tableau, aux États-Unis. Le tableau est trop grand, il sera refusé, ce qui évidemment pour lui est un grave échec. Mais c'est quelqu'un qui manifestement est très très soucieux, effectivement, de pouvoir non seulement se faire son autopromoteur, il est publiciste de sa propre carrière, mais aussi manifestement quelqu'un qui sera assez soucieux de pouvoir gérer sa propre carrière et l'inscription, bien évidemment, de son œuvre dans un marché de l'art.
Et dans un paysage ultra contemporain. C'est le sujet de votre livre, Pascal Rousseau. Merci infiniment de l'avoir commenté. C'est un livre remarquable.
La matière, c'est la vie.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu l'historien, le professeur, l'écrivain Pascal Rousseau à propos de son livre « Robert Delaunay, l'invention du pop » qui vient de paraître chez Azan. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, merci Seam, lecture des textes Myriam Ajar, prise de son Philippe Mercher, réalisation évidemment Franck Lilin. La semaine prochaine, nous serons avec Christian Boltanski au Musée National d'Art Moderne pour sa grande exposition. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.